I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et nous sommes au Club de l'Étoile en live. Voilà, c'est Rafik qui pointe deux doigts parce que Rafik aime vos applaudissements. En fait, j'allais les lancer au moment où j'allais parler d'eux, quoi. Enfin, les présenter, quoi.
Non, mais je pense aussi aux gens qui nous écoutent avec le casque sur les oreilles, tu sais, bien enfoncé.
Pour bien leur casser les oreilles. Ouais. Bravo, Raph. Donc, vous l'aurez compris, je suis avec Rafik Djoumi, mon comparse habituel, et Julien Dupuis, mon autre comparse habituel, pour parler de True Romance à l'occasion de la soirée, de la séance Capture Mag, en fait, sur le film, sur True Romance, qu'on a décidé de programmer pour rendre hommage à Tony Scott qui nous a quittés il y a maintenant 10 ans. Voilà. Donc, comme vous êtes deux et que c'est une configuration un petit peu particulière, on n'a pas l'habitude, c'est le premier Stéroïdes à trois voix. Lequel de vous je lance pour pitcher le film? J'aime bien lancer le pitch.
Pour pitcher le film? Ah oui.
Pas compliqué, écoute, ça va. Oui. Il y a déjà des gens qui n'ont pas vu le truc dans la salle, donc ils vont.
En gros, en résumé, c'est l'histoire d'un jeune cinéphile un peu zinzin, interprété par Christian Slater, qui s'entiche d'une prostituée jouée par Patricia Arquette, qui est aux mains d'un macro et qui va en gros la libérer, on va dire, des griffes de son. Mais enclencher dans l'opération toute une sale histoire. Je sais plus si c'est de la drogue ou
si c'est de la cocaïne.
Voilà, qui va faire qu'en gros des mafieux vont se mettre en quête de ce type. Ils vont assassiner son père et
spoil tout.
Allez, ça y va. En gros, ils vont se retrouver, ils vont être dans une espèce de cavale.
Ça devient vite fait une cavale.
Qu'ils sont en quête de liberté, ils vont se retrouver avec à la fois la mafia et aussi les flics au final, la police au cul, voilà. Comme le dit la plague.
Voilà.
Voilà. Et donc c'est une cavale. Donc c'est un film écrit par un certain Quentin Tarantino, il faut peut-être le préciser, qui s'est pas retrouvé immédiatement entre les mains de Tony Scott. Moi j'ai une histoire un petit peu particulière avec le film parce que j'ai fait mes premières armes dans un magazine qui s'appelait Le Cinéphage, dont la rédaction était composée de pas mal de gens qui bossaient plus ou moins avec la boîte métropolitaine et donc étaient au courant de l'existence de ce film bien avant qu'il n'arrive sur les écrans, et notamment m'avait déjà vendu, on va dire, la qualité de son écriture, parce que le style de Tarantino avait plu bien avant que Tarantino ne devienne Tarantino. En fait, Samuel Adida qui est donc le producteur de Metropolitan, qui est surtout un distributeur de films, c'est surtout spécialisé dans la distribution de films américains, mais avait des velléités aussi de producteur. Depuis, il a fait notamment la saga des Resident Evil, le Pacte des Loups et pas mal de gros projets. Mais à l'époque, voilà, il commençait à se lancer là-dedans, et comme il avait surtout distribué des films de castagne, on va dire, ses contacts sur la place américaine, c'était des mecs genre Sheldon Lettich, quoi. Et c'est en fait via Sheldon Lettich qu'il a rencontré Tarantino, qui à l'époque avait écrit True Romance en reprenant un projet de son collègue Roger Avary. Avary, en fait, pour résumer, avait commencé à travailler sur un projet. C'est lui qui a donné le nom du personnage que joue Christian Slater. C'était dans le script de
Clarence,
voilà. C'est dans le script d'Avary. C'était déjà l'idée d'un nerd, en fait, qui se retrouve dans une aventure qui le dépasse, quoi. Un vendeur de comic book, en l'occurrence. Et comme Avary il a été question pour lui à un moment donné qu'il fasse un surfeur d'argent, il s'était lancé à fond dedans, et il a laissé Tarantino développer le truc. Donc Tarantino a repris à son compte la trame très brève, mais là, bien sûr, augmentée de toutes ses propres obsessions et de sa propre autobiographie, parce que je pense qu'il c'est évident pour tout le monde aujourd'hui que le personnage de Clarence, c'est Tarantino lui-même.
Il le dit lui-même. Hein.
Et il a essayé de réaliser le film, sauf qu'il était personne à l'époque. Il s'est fait entuber par des producteurs suffisamment en tout cas pour en gros ranger le truc et l'oublier et toute son énergie, toute sa colère, du coup, il a lancé ensuite sur l'écriture de Tuerné. Mais c'est vraiment le Tuerné qu'il a mis sur le radar américain, puisque Oliver Stone s'était intéressé au projet pour le faire un peu plus tardivement. Bref, toujours est-il que quand Adidas cherche en fait des plumes quoi pour faire un film, il entend parler de ce gars-là, il lit le script, ça lui plaît. J'ai une citation d'ailleurs de lui, je crois que j'avais noté, de l'époque. Toute ma famille a été bercée par le cinéma américain, les films de John Ford, de Roger Corman. D'ailleurs, je n'ai pratiquement distribué que des films en provenance de là-bas. Un jour, on a eu l'idée de faire le remake d'un film français aux États-Unis. Nous avons contacté un certain nombre de scénaristes et c'est comme ça que j'ai rencontré Quentin, via donc Sheldon Lethich. Je lui ai demandé s'il avait un projet sous le coude, il m'a fait lire True Romance. J'ai trouvé le script formidable, je lui ai acheté et c'est ce qui lui a permis de mettre en route Reservoir Dogs. Puisqu'en fait, il avait été vendu pour $40,000. Et c'est effectivement avec cette somme et l'appui d'Harvey Keitel que Tarantino a pu vraiment lancer là-dedans et monter notamment sa boîte Bande à part. Qui d'ailleurs est au générique aussi de True Romance.
Alors faut peut-être préciser, je rajoute une petite précision là-dessus, c'est que en gros Tarantino voulait faire un film, le réaliser, et la question, bon, on sait maintenant que c'est Reservoir Dogs, mais la question se posait vraiment entre Reservoir Dogs et True Romance. Mmh. Et quand il s'est retrouvé à traîner sur le tournage du Dernier Samaritain, parce qu'il connaissait l'assistante, en fait, de Tony Scott, qui lui disait, il faut que tu lises ce que ce gars a écrit, c'est là où il lui a proposé, en fait, les deux scénars, et Tony Scott a dit, je fais les deux. Mmh. Et quand Tarantino...
Tuerné aussi, non?
J'ai lu Reservoir Dogs.
Moi, j'ai entendu Tuerné et Tuerné est une émanation aussi de True Romance.
Mais tout à fait, ouais. Mais par contre, le truc, c'est que du coup, Tarantino lui a donné un ultimatum, il lui a dit, tu en choisis un, il n'y en a qu'un seul, l'autre, il est pour moi, quoi. Et il faut peut-être rajouter une petite précision aussi, c'est que avant que ça devienne un film de Tony Scott, ça devait être un film de William Lustig. Ouais. Chez Adidas, hein, puisque c'était vraiment le premier, comment dire...
Je crois qu'Adidas avait distribué...
Les Maniac Cop.
Mais même Maniac, en vidéo.
Ouais, ça doit être un peu...
Donc, enfin, voilà, il connaissait effectivement. Encore une fois, au départ, Adidas, il était parti sur ce qu'on appelle des réalisateurs de série B, en fait, aux États-Unis. Et finalement, c'est vrai que la qualité du script va lui amener des gens. Bon, c'est sûr que quand t'as un Tony Scott qui vient frapper à la porte, ben qui déjà à l'époque est plus qu'installé, c'est difficile de dire non. Mais c'est surtout
surtout que Tarantino voulait pas de Lustig, si j'ai bien compris. Hein, ouais. C'est qu'il estimait justement que Lustig ne pourrait jamais, ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est vraiment s'émanciper de la série B, quoi.
Même si je pense que Tarantino a écrit une série B avec True Romance, et surtout il y a un truc, ça on va en parler, c'est que ce que Tony Scott a fait de True Romance est un film fondamentalement pas différent vraiment de ce qu'il y a sur le papier, quoi. Mais en tout cas, son ton et son approche est vraiment différente de ce que Tarantino avait en tête. Et je pense que chez Lustig, ça aurait été un film beaucoup plus âpre, et c'est un film violent, hein, True Romance, mais beaucoup plus âpre et beaucoup plus dur que
notamment sur la fin. Oui.
Voilà, que ce qu'a fait. Voilà. Et je sais que moi, pour en avoir parlé avec Lustig, c'est encore très douloureux pour lui, en fait, parce qu'il a pas compris qu'il s'est fait vincer d'un seul coup, il a vraiment pas compris pourquoi. Et aujourd'hui, il en a fait plus ou moins le deuil en se disant, quand on va chercher quelqu'un comme Tony Scott, qui est le réalisateur de Top Gun, etc., qui fait des gros blockbusters, bah forcément je passe à la trappe, quoi. Mais c'est vrai que pour lui ça a été extrêmement douloureux parce qu'on lui a pas forcément expliqué les raisons exactes de la tambouille politicienne, hein, en fait, d'Hollywood, quoi.
Là, le poids public, et puis surtout tu sais avec Tony Scott ce que tu vas obtenir à l'image, même si ça, du coup, ça nécessite un autre budget qu'avec Lustig, puisque même si c'est très en deçà des standards de Tony Scott, c'est quand même $25 millions qui ont dû être sortis pour une production qui est quand même pas une production de studio. Mais ceci dit, ça leur a retiré aussi l'appui de Weinstein, la présence de Tony Scott, puisque il était quand même plus ou moins considéré comme ingérable, en fait, en tant que Tony Scott, il donnait pas forcément l'air comme ça, mais J'ai l'impression que c'est un peu des couilles en fonte. Et non, c'est clair qu'il faisait peur à certains producteurs.
Oui, puis il a aussi cette image d'esthète à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui, quand il fait Jour de tonnerre juste avant, justement, avant Le Dernier Samaritain, il est obligé. Enfin, c'est des budgets qui explosent parce que ça devient un espèce d'ego trip qui était surtout un ego trip de Don Simpson et Jerry Bruckheimer, quoi. Et en fait, ils l'ont tous plus ou moins payé. Donc c'était un film à la base à 40 millions de dollars qui est passé à 60 ou 65. Je pense que c'est ça l'aura en fait de Tony Scott qu'il avait à ce moment-là, quoi.
Et ce que je trouve intéressant aussi rétrospectivement, c'est que moi j'ai toujours trouvé injuste que l'explosion du nom de Tarantino dans l'esprit du public et de la critique ait complètement occulté un mec comme Shane Black qui était arrivé quand même un petit peu avant et qui avait déjà largement retravaillé l'esprit pulp et hard-boiled pour justement en faire un truc un peu postmoderne, quoi. Ce que Tarantino a refait, peut-être en mieux, je sais pas, mais en tout cas plus tard. Or, avec Tony Scott, on a le lien, puisque Le Dernier Samaritain était un script de Shane Black, que Tony Scott a servi magnifiquement, pour ensuite enchaîner avec un script de Tarantino. Donc on est presque dans le même esprit, même si on n'est pas du tout dans le même genre de film.
Toutefois, il faut, je pense, mettre vraiment... Moi, je mets une différence entre les deux sur un truc qui est très simple, c'est que je pense que... et je sais pas si c'est lié automatiquement à la période, mais en tout cas, il a fait exploser ça, Tarantino. C'est cette idée qu'on fait des films de cinéma sur le cinéma. Et que, en gros, un personnage comme ça dans un film d'action, c'est-à-dire un fan de cinéma qui n'a pas de, qui n'a pas de passif de militaire, qui n'a pas de passif de héros d'action, en fait, puisse devenir le héros d'action de sa propre histoire. Mmh. Et même si c'est très direct, hein, True Romance, dans sa façon de l'appréhender, c'est tout le questionnement que Tarantino fait sur Pulp Fiction, par exemple, ce genre de choses. Quand à un moment donné, il questionne des figures de cinéma comme les deux gangsters qui se mettent d'un seul coup entre eux, quand ils sont pas en train de tuer quelqu'un sur un contrat, en fait, qui se mettent à parler entre eux de cinéma ou d'autres choses. Mmh. Quoi.
Donc, d'anecdotique, en fait. Mmh.
Je pense que là-dessus aussi, c'est peut-être bien de replacer True Romance dans son époque. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai découvert le film, voir un héros qui était un cinéphile...
Un geek.
Voir un film qui vante les mérites du comic book, c'était pas du tout courant, en fait. et en fait, True Romance, en tout cas sur moi, c'est comme ça que le film a fonctionné. Moi, je me reconnaissais complètement dans le personnage de Clarence, en tout cas tel qu'il est planté au début. C'est-à-dire que, je sais plus, j'avais 17 ans, un truc comme ça, quand le film est sorti, un truc comme ça, 16-17 ans. Et j'étais un peu comme lui. C'est-à-dire, je voyais des films, je lisais du comics, mais je me retrouvais pas. À l'époque, il n'y avait pas les Marvel partout. Enfin, c'était la perception de ce qu'on a appelé la culture pop, qui est un terme un peu fourre-tout, mais j'espère que je suis relativement clair en parlant de ça, en fait, n'était pas du tout évidente à l'époque. Personne ne parlait du cinéma de Hong Kong.
Pour beaucoup de gens, ça a été la première fois qu'ils ont vu un extrait d'un film de John Woo.
Exactement, que tu as échoué une fat et tout. Et personne ne parlait comme ça. En tout cas, cette courte ligne de dialogue, en fait, sur la BD Spider-Man, moi, je sais qu'elle m'avait touché directement. Et en fait, ce qui était intéressant, en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'était pas tant le discours sur le cinéma ou sur le prendre un contre-pied en fait d'une figure du cinéma d'action, mais c'est surtout de se permettre de prendre un personnage comme ça pour l'emmener dans un conte de fées. Pour moi, c'est ça en fait, True Romance. Et je pense que ce qui fonctionne aussi, je pense que si Tarantino avait fait le film tel qu'il l'a écrit, c'est-à-dire ça, il faut le signaler quand même, qu'il y a deux changements radicaux qu'a apporté Tony Scott au scénario, qui sont d'une part une narration qui n'était pas linéaire initialement, donc qui s'apparentait un peu plus à ce qu'il a fait avec Reservoir Dogs et surtout avec Pulp Fiction, qui donc égarait le spectateur pour les rattraper derrière et tout. Moi, ce que j'ai, je dois faire mon coming out, hein, je suis pas du tout un fan de Tarantino, et ce que j'ai toujours trouvé comme des espèces de facilité en fait d'écriture pour happer et désarçonner en fait le spectateur. Donc Tony Scott s'est débarrassé de ce qui pour moi était une affaîtrie, et il a aussi changé radicalement la fin. Je vais pas rentrer forcément dans les détails parce qu'il y a des gens dans la salle qui ne l'ont pas encore vu, mais disons que la vision que Tarantino avait de la fin, qui est en gros l'inverse de ce que vous allez voir dans le film là, était pour moi un truc extrêmement ado. C'est-à-dire que aller dans ces extrêmes là dans un final, c'est pour moi, enfin c'est comme ça que j'ai toujours perçu les choses, c'était la solution de facilité. C'était abonder dans l'espèce de nihilisme basique en fait qu'on peut avoir quand on est ado et tout. Ah, je suis obligé un peu de spoiler, je suis désolé de faire, mais disons que donner une chance au personnage, donner une chance au récit, ouvrir en fait le récit hein, vers ces extrêmes-là, c'est assumer un peu plus ce qui, à mon sens, est le cœur fondamental du film, encore une fois, le conte de fées, et aussi ne pas encore céder à ses affaîtris pour faire de l'émotion. Je pense pas que le film avait besoin de ça. C'est intéressant parce que cette fin initiale, Tony Scott l'a tournée quand même. Il a promis en fait à Tarantino, ça a été leur vrai, si de ce que j'en sais, ça a été leur vrai sujet de dissension en fait. Et il a dit, écoute, je vais tourner la fin telle que tu l'as écrite. Il a pas tout tourné, notamment il manquait un plan radical avec Patricia Arquette. Mais il a dit, je vais le tourner, je vais le monter, on verra en fait au final. Et on le voit en fait, c'est-à-dire que c'est plus convenu, c'est plus attendu, et c'est moins audacieux en fait, c'est moins radical finalement par rapport à l'option qui a été choisie, parce que l'idée de True Romance, c'est le contraste en fait, et je pense que ça marche aussi derrière la caméra, c'est-à-dire que quelque part, Tony Scott et Tarantino, ils sont très contrastés. Tarantino, il tourne pas du tout comme Tony Scott. Ses intérieurs sont jamais enfumés, par exemple. Jamais.
Mais t'as parlé deux fois de contes de fées. Effectivement, il faut insister là-dessus. Parce que de toute façon, c'est en germe dans le projet de Tarantino. Il appelle son film, True Romance. Et,
oui, mais c'est un pied de nez.
Oui, mais c'est une référence à une culture de librairie qui sont les albums, comment on appelle ça, les romans photos en fait, qui paraissaient dans les années 50 aux États-Unis, dont les plus célèbres étaient True Stories of Romance. Et il y avait également des comic books faits sur ce modèle, dont une série qui s'appelait Young Romance. Mais le True Stories of Romance, c'est vraiment fleur bleue. C'est conte de fées. Et ce que Tony Scott n'a pas trahi et au contraire servi, c'est effectivement cet aspect complètement. Les deux personnages sont fous amoureux. À aucun moment il y a une ombre à ce sujet-là. Ils sont prêts à tout l'un pour l'autre. Et c'est quelque part cette positivité que le film maintient tout du long au milieu d'un univers de violence, de drogue, de sang, etc. Il traverse tout ça comme deux angelots, survolant la ville pourrie. Quoi.
Des angelots un peu brisés. Non, c'est-à-dire brisé, que
ouais, d'accord.
Moi, enfin, encore une fois, je rapporte le film à mon expérience, mais je crois que c'était un an avant qu'il était sorti Batman Returns, et il y a des ponts, je trouve, entre les deux. C'est-à-dire, dans ce truc un truc d'amour, en fait, une espèce de romance où tu dépeins en plus un vrai beau personnage de femme amoureuse. Moi, j'adore ça, les femmes amoureuses. N'y voyez aucun témoignage de mon passif romantique, mais ouais, non, mais j'adore ça, quoi. Je trouve ça est génial, en fait, au cinéma. Et enfin, en tout cas, de faire un beau couple au milieu de la fange, en fait, d'une humanité complètement pourrie, quoi. Et tous les personnages qui soient grotesques et tout, il y en a qui sont attachants parce que, enfin, je pense au personnage de Brad Pitt, par exemple, et tout, ils sont attachants, mais de façon décalée, en fait.
Ils ont tous quelque chose de différent, finalement, par rapport à ce que tu pourrais t'attendre dans leur propre fonction. C'est-à-dire, même le personnage de Gandolfini, par exemple, il y a un moment donné où il se retrouve face à Alabama et dans leur scène cruciale, hein, la scène de baston, en fait, il lui dit, tu as du cœur, en fait. Vraiment, tu vois, et le fait qu'il lui dise ça alors qu'il sait qu'il est censé la tuer, ça crée une espèce de relation entre les deux personnages qui est vraiment très particulière. Mais ça je pense que c'est beaucoup dans l'écriture. Le côté conte de fées, c'est beaucoup dans l'approche de Tony Scott, vraiment. C'est-à-dire que en gros, lui, il avait cette vision-là. Il y a un film caché. Comme souvent, en fait, les réalisateurs hollywoodiens ont un film caché qu'ils essayent de voir. Chez Tony Scott, c'est toujours très évident. Hein. Par exemple, quand il fait Ennemi d'État, c'est clairement Conversation secrète. Il va littéralement chercher Gene Hackman dans un rôle parano similaire, quoi. Là, le film caché, c'est La Balade sauvage de Terrence Malick. Il reprend même carrément le motif musical, en fait. Alors visuellement, ça ne ressemble pas à ça.
Ils ont pas repris le motif musical puisque Hans Zimmer l'a recomposé. Gassen Hauer de Karl Orff, qui est en fait un exercice de méthode musicale pour les enfants. Et donc c'est par définition un truc très enfantin, très agréable,
très pur
à l'oreille, très pur, voilà, que Terrence Malick utilise dans l'ouverture de de la balade sauvage pour justement souligner la pureté de cœur du personnage de Martin Sheen qui nous est présenté comme un éboueur, un peu cynique, etc. Et qui en fait, quand il tombe devant cette jeune fille qui fait la majorette dans son jardin, il est complètement sous un charme. Enfin, c'est vraiment le ciel lui tombe sur la tête, quoi. Et cette musique, elle a quelque chose encore une fois d'angélique, quoi.
De l'ordre du conte de fées.
Ouais. Et donc, c'est vrai que ça souligne la parenté entre les deux.
Bah, films, ça souligne la parenté, et puis il y a l'aspect aussi Americana, c'est-à-dire que même si chez Malick c'est une Americana, qui est liée à la nature, en fait, là chez Tony Scott c'est une
très
Americana qui est liée,
surtout, ouais.
C'est une Americana qui est liée, qui est urbaine en fait. Ouais. Il te montre la Californie telle que tu vois, tu la fantasmes quand t'es.
Le fait est, c'est assez intéressant que Terrence Malick dans La Balade Sauvage, en fait, utilise les longues focales de la même façon que Tony Scott les utilise dans True Romance. Hein. Il utilise de très très longues focales pour écraser la perspective à mort et vraiment faire ressortir ces personnages, quoi. Donc oui, il y a plein de ponts entre les deux films. Moi, à l'époque, c'est vrai qu'on imaginait que c'était Tarantino qui était à l'origine de cette filiation, connaissant déjà son amour pour le cinéma des années 70, mais en réalité, il semblerait que ce soit que Tony Scott était tout à fait au courant.
Il n'y a pas d'excuse à ça. C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est même si Tony Scott, il a cette aura de pubeur et de clipper, en fait, qu'il pouvait avoir à l'époque, qui est vrai, hein, puisqu'encore une fois, il utilise des motifs qui sont des motifs de pubeur dans ses films, hein, y compris dans True Romance. Hein, par exemple, je pense les plumes à la fin dans la fusillade, c'est vraiment un truc pour brouiller l'image, en fait, et pour la rendre complètement. C'est complètement une idée que tu pourras retrouver dans une pub des années 80 ou 90, quoi. Mais
son morceau favori qui est L'Acmé, l'opéra de Libre, non?
Non, L'Acmé, c'est pendant la scène des...
Christopher Walken, ouais. Et Denis Hopper.
Ah bon?
Ouais. Rafik n'a pas revu le film.
Mais c'est aussi une volonté de mettre en scène l'air. Enfin, c'était le truc de ces cinéastes anglais en fait, qui étaient sur je crois que c'est le layering. Enfin, il y avait un terme en fait là-dedans qui était, c'est Ridley Scott en fait qui avait mis en place ça, d'inonder en fait l'image d'information. Et notamment pour inonder l'image d'information, tu mets en scène l'air. Comment tu mets en scène l'air? Bah, tu mets ou alors des éléments. Donc ça peut être de la pluie, ça peut être effectivement les plumes, mais le plus communément c'est la fumée, et la fumée par exemple qui me rend tangible en fait la lumière et la présence de la lumière et la façon qu'elle a d'interagir en fait avec les personnages, quoi. Et il y a ça énormément en fait déjà dans True Romance. Il y a beaucoup d'écrans à l'intérieur des scènes qui viennent contraster ou contrebalancer ce qui nous est présenté à côté, ou alors intensifier en fait ce qui est en train de se dérouler. La scène avec le simili Joel Silver par exemple, bon, bah il y a une scène de guerre en permanence qui rajoute une espèce de tension latente pendant toute cette séquence dialoguée qui, par ailleurs, pourrait être relativement plate, quoi.
Et c'est aussi une façon de pour Tarantino, tu parles de simili Joel Silver qui est interprété par Saul Robinet, c'est un producteur à qui ils vont vendre la valise de coke. En fait, c'est une façon aussi pour Tony Scott de se réapproprier le film, puisque à cette époque-là, il sortait justement d'une année Samaritain, ça s'est très très mal passé entre lui et Joel Silver. Enfin, apparemment, ça s'est mal passé entre tout le monde, mais Tony Scott en avait vraiment après Joel Silver. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans la même interview, Samuel Adida disait qu'il est allé rencontrer Tony Scott au moment où il était en train de monter Le Dernier Samaritain pour discuter de True Romance. Mmh. Et Tony Scott lui disait, écoute, je te laisse, je peux pas rester au rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision sur le banc de montage à ma place, en fait. Et c'est un des trucs où d'un seul coup Adida s'est dit, mais il faut que j'offre le final cut à ce mec. En fait, c'est pas normal que un cinéaste de cette trempe ait,
à batailler comme ça.
À batailler avec les studios, quoi. Et en l'occurrence, avec le producteur. Donc, on va dire que Joel Silver, il lui taille un bon gros costard.
Il taille un sacré costard, c'est sûr. Et c'est sûr que c'est une grande gueule, hein, Joel Silver. Mais pour avoir passé une heure et demie avec lui dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, j'ai pas eu l'impression d'être traité comme les personnages le sont dans...
T'as peut-être pas réalisé un film pour le Raph. Dans les années 80.
J'aurais plutôt vu un Don Simpson, en fait, dans ce côté un peu porcin du personnage. Mais bon, je trouve que Silver a un peu plus de classe que ça. Mais bon, après, je comprends la colère de Tony Scott, elle est manifeste. Et...
Ouais, même si lui, il, avec le recul, il dit que c'était, enfin, il disait que c'était, juste pour s'amuser, quoi. Mais le film est truffé comme ça de points. En fait, d'ancrage dans lequel justement Tony Scott a essayé de se réapproprier le film, et c'est la démonstration. Et on le savait pas forcément à cette époque-là, mais c'est la démonstration qu'il y a quelque part quelqu'un qui a une vision de chaque film, même si elle peut sembler unilatérale. Ouais. Il a une vision très spécifique de chacun des projets qu'il aborde, quoi. Et True Romance, je pense que tu dois énormément, c'est-à-dire qu'il y a déjà le fait que t'es quand même plusieurs scènes assez mastoc en fait dont les gens se rappellent, hein. Il y a notamment, bon, on a parlé de l'échange entre Dennis Hopper et
Christopher Walken,
qui est une scène absolument d'écriture hyper hyper précise, oui. Et très tarantinesque, hein, dans
et voilà aussi souligner que Tony Scott n'a pas forcément eu l'occasion de montrer ses talents de directeur d'acteur sur des films comme Top Gun ou Jour de tonnerre, quoi. Là, c'est avec un casting pareil qui est quand même... Déjà, à l'époque, le casting est ahurissant pour un film comme ça. Et il fallait la qualité d'écriture d'un Tarantino pour ramener autant de monde, surtout pour quelque chose qui est vraiment très épisodique. Parce que le fait d'avoir remis le film dans l'ordre, comme Tony Scott l'a fait, ça révèle aussi que l'écriture de Tarantino, c'est au fond une... Bah, des sketchs, quoi. Une série de sketchs qui s'enchaînent. Il n'y a pas de progression dramatique vraiment pertinente dans True Romance. On a une cavale, on a quelques événements qui en entraînent d'autres, mais je veux dire, il n'y a pas une dynamique de narration hyper mécanique.
Ça, c'était peut-être
mécanique.
À ses débuts. Aujourd'hui, c'est un peu plus flagrant.
C'est pas du Robert Zemeckis ou que sais-je, quoi, si tu veux. C'est un peu... voilà, on se pose... On a une confrontation. Voilà, il y a un événement qui doit se passer. Les gangsters doivent rencontrer le père. Boum, c'est l'occasion de faire une scène. Et donc on fait une scène d'acteur et on enchaîne avec une autre scène d'acteur et ainsi de suite. C'est pareil avec Brad Pitt, c'est pareil avec Rubinek, etc. Quoi. Mais la qualité d'écriture dramaturgique sur tout le long, elle est pas.
D'ailleurs, il le dit lui-même que sa volonté à l'époque c'était d'attraper les gens puisqu'il n'arrivait pas à vendre ses scénarios en fait. Et du coup, le True Romance s'ouvrait sur finalement une scène qui est relativement anecdotique quand tu réfléchis au reste du film, qui est la scène de discussion autour du Cunnilingus avec le personnage de Gary Oldman et le personnage de Samuel Jackson, qu'on reconnaît à peine d'ailleurs, hein, dans le film, puisqu'il est vraiment grimé, quoi. Mais le truc, c'est que voilà, il y a ça, pour le coup, ça fait partie des moments où Tony Scott va vite, en fait. C'est-à-dire que chez Tarantino, c'est une scène qui aurait pu durer 5 minutes, chez lui, ça dure, 45 secondes, quoi.
C'est très bien.
Mais voilà, c'était une approche parce que, en fait, encore une fois, à ce moment-là, je pense que comme Tarantino n'était pas encore Tarantino, il y avait l'idée, en fait, comme d'ailleurs Oliver Stone l'a fait l'an d'après avec Tuesday Night, de s'approprier totalement son scénar, d'en faire ce qu'on veut, de voilà. Tony Scott
est un peu fidèle. Oliver Stone allait contre, en fait, le truc. Moi, je trouve que, en fait, la force de True Romance, c'est qu'il recadre, en fait, ce qui, moi, hein, me semble être des déviances de Tarantino, c'est-à-dire des choses où il est un peu naniste, quoi. Moi, je vois ça, en fait, dans Tarantino, où tu as ces scènes de dialogue interminables, où tu as l'histoire d'un mec qui raconte l'histoire d'un mec qui a rencontré un autre mec, tout ça pour te dire qu'il faut ouvrir la porte, quoi. Et là, en fait, il y a ce truc hyper resserré, en fait, souvent. Et avec cette capacité, effectivement, dans cette scène magnifique de confrontation entre Dennis Hopper et Christopher Walken, de par contre savoir quand tu te poses, quand la tension elle est là, elle est percutante et elle est suffisante. Effectivement, cette scène, en fait, quand tu revois le film aujourd'hui, que tu as vu tous les autres Tarantino et tout, que cette scène du Cunnilingus dont tu parles, c'est très bien comme c'est, hein. Moi, je pense que ça aurait été imbitable, pour moi en tout cas, dans un truc hyper dilaté comme ça.
Moi, j'ai toujours trouvé un peu expédié, mais j'ai toujours eu le sentiment que, en fait, ça allait beaucoup trop vite pour ce que c'est censé raconter, même si, encore une fois, on peut considérer que voilà. Le vrai truc, c'est que, dans la réappropriation de Tony Scott, lui, il va vite parce que d'un seul coup, ce qui est important, c'est le deal de drogue. En fait, c'était ça qui était en train de se passer à ce moment-là. C'est pour mettre en place le début du récit. Et puis après, il y a effectivement la façon dont lui va se réapproprier ses scènes. La scène de discussion, quand tu parlais du fait qu'il mettait la musique de Delib, c'est un truc en fait où c'est une idée de Tony Scott, c'est pas une idée de voilà. Et d'ailleurs, il a réussi dans un autre film morceau.
C'était dans Les Prédateurs déjà.
Oui, c'était dans Les Prédateurs, voilà. Et en fait, du coup, il y a cette notion où il va s'approprier ces scènes-là. Tu parles de direction d'acteur, et une direction d'acteur un peu on va dire politiquement incorrect sur celui-là, en fait, c'est que justement dans la scène de confrontation entre Jess Gandolfini, donc Tony Soprano, quoi, en gros, avant qu'il soit Tony Soprano, mais qui était déjà une force de la nature, quoi, et Alabama, quoi, t'avais comment elle s'appelle, Patricia Arquette, qui demandait, en gros, alors je sais plus c'est quoi le terme, en fait, ils avaient donné un surnom, en fait, au baf. que Tony Scott lui donnait pour la foutre dans la scène, quoi. Et la scène est ultra violente aussi à cause de comment dire, de l'intensité en fait avec lesquelles les personnages jouent le truc, quoi. Et je pense qu'il y a
violence nécessaire, je trouve, parce que c'est la scène qui a été charcutée, je crois, au montage, en Angleterre, hein, avec le premier montage. Mais cette scène, elle est importante parce que c'est un point de bascule sentimental pour le spectateur, parce que jusque-là, t'as comme en fait, Alabama, tu la kiffes, mais tu la kiffes comme une petite fille innocente, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est la violence qui lui est faite fait ressortir la créature enragée qu'elle est au fond, quoi. Et jusque-là,
d'ailleurs, elle était coupée. C'est ça qui a été coupé, c'est-à-dire que c'est pas la scène qui a été coupée, c'est la rage qu'elle a à la fin.
Voilà, ouais. Son côté badass, ouais.
Ouais. Et c'est important parce que après, dans le reste du film, tu la vois plus du tout de la même façon, quoi.
Et il y a aussi un truc, c'est que à ce moment-là, dans le cadre du cinéma hollywoodien, dans tous ces genres de choses et tout, en fait, on pouvait se dire que, il est possible qu'elle meure. À ce moment précis, en fait, et c'est vraiment un truc qui parce que encore une fois, c'est pas forcément un film de studio, c'est aussi un film indépendant, mais c'était bâtard parce que il y avait pas de cinéma, enfin il y avait un cinéma indépendant, mais il y avait pas un cinéma de studio indépendant comme ça a été créé en fait par les succès des films de Tarantino et ce genre de choses, quoi. On pense notamment à Miramax, ce genre d'idée où en fait tout d'un seul coup ces films étaient censés, mais c'était marketé comme ça, hein, prendre un peu plus de risques que les films de studio, bah t'avais la notion que effectivement à ce moment-là, quand t'allais voir ce film-là ou t'allais voir juste le film du mec qui a fait le dernier Samaritain ou Top Gun, bah d'un seul coup le personnage pouvait mourir et ça la rendait d'autant plus humaine, quoi, quelque part aussi, voilà. Et il y a aussi cette bascule, il y a aussi l'attachement de ce qu'elle est capable de faire par amour pour le personnage de Clarence à ce moment-là, quoi. Donc il y a tout, parce qu'elle donne pas la valise, elle fait rien, c'est-à-dire elle combat, elle est combative. Donc il y a toutes ces notions-là, elles sont importantes pour effectivement démontrer comment le personnage, comment les deux personnages s'aiment vraiment et comment lui regrette ce qui se passe. Enfin, bref, voilà.
C'est un super personnage quand même. Elle est. Enfin, moi, s'il y a un personnage que je ressors, c'est quand même elle. Déjà, le casting, il est génial. Ils avaient pensé à Drew Barrymore.
Ouais, Tony Scott voulait vraiment Drew Barrymore, ouais. Et je pense que c'était un vrai truc esthétique pour lui. C'est-à-dire, il devait le voir. Apparemment, il avait un trip sur elle absolu. C'est-à-dire, mais vraiment, et je pense que c'était, enfin, la façon dont les gens en parlent, je pense que c'était presque photographique. C'est qu'ils disaient, filmer d'une manière.
Il avait scotché sur un téléfilm réalisé par Diane Keaton qui s'appelait Wildflower, dans lequel elle jouait une gamine, enfin quasiment une gamine, quoi. Et effectivement, il a dit, hein, qu'il avait été complètement happé par sa légèreté, son innocence, et il se disait c'est elle, quoi. C'est vraiment quand il lisait les lignes d'Alabama, il voyait que cette jeune fille là. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé si c'était pas le premier exemple de ce qu'on appellerait plus tard le Tarantinoverse, puisque dans Reservoir Dogs, on a vu les films presque à la même période, hein. Et dans Reservoir Alabama, c'est pas un nom courant, et dans Reservoir Dogs, lorsque le personnage de Harvey Keitel, Mr. White, parle à son boss, Joe Cabot, là, joué par Laurence Tierney, lui demande, la première question, c'est comment va cette vieille Alabama, quoi. Et Mr. White de dire, oh, tu sais ce que c'est, ces histoires-là, enfin, en gros, quand ça a démarré trop fort, ça peut pas aller très loin, quoi.
Le nom de Spivey aussi, qui est le personnage de Gary Oldman, revient aussi dans la même scène,
ouais.
Même si c'est pas tout à fait personnel, mais effectivement c'est un premier exemple de
Tarantinoverse, en fait, ouais. Je pense qu'effectivement il a dû le mettre peut-être dans Reservoir Dogs juste parce que le nom était chouette et que tu le repères tout de suite à l'oreille, et se dire que là, qu'il allait peut-être faire de ce genre de truc par la suite. Enfin, je pense pas qu'il avait planifié le Tarantinoverse d'entrée de jeu, quoi.
Non, c'est pas Kevin Feige, mais le truc c'est qu'il a, en fait, il a vraiment, en fait, l'idée en fait de Tarantino, c'est, il s'est toujours dit, pour lui, en fait, la façon dont True Romance existe, c'est que si, et tel que lui, il l'a écrit, le personnage d'Alabama pourrait refaire surface dans ses autres films, un jour, pas forcément celui de Clarence. Donc, du coup, il y avait toute cette idée, en fait, où oui, effectivement, j'aime ces personnages-là, je pourrais les faire revenir. Quand Pulp Fiction a marché, il y avait peut-être l'idée, que de réunir les deux frangins Vega, qui étaient Travolta dans Pulp Fiction et Michael Madsen dans Reservoir Dogs. Même si, à la base, en fait, c'est, je crois, Michael Madsen qui devait jouer le rôle de Travolta aussi. Donc, c'est vraiment des trucs qui se mettent au fur et à mesure, qui sont pas forcément prévus, où il se dit, je peux, mettre ça en place. Alors, il faut peut-être préciser un truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un film culte. Mais le film s'est complètement planté quand il est sorti. C'est-à-dire ouais. que, un, Tarantino, personne dans le grand public savait qui c'était. Pulp Fiction est arrivé un an après. Deux, le studio savait absolument pas comment vendre le film. C'est-à-dire qu'ils ont même voulu changer de titre. Ils voulaient appeler ça Reckless Hearts, je crois. Et t'as carrément Tarantino qui leur a dit, qui a dit à toute l'équipe, il leur a dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une conférence de presse. Et on va citer absolument tout le monde, y compris les gens de la com pour leur dire c'est des conneries, c'est de leur faute, faut pas faire ça, faut notre titre est mortel, c'est trop romance, faut qu'on garde ça. Le film est sorti, il est resté genre 3 semaines à l'affiche aux États-Unis. Il est sorti cut, effectivement, mmh. là-bas, et après il est sorti en version,
pas chez nous.
Non, chez nous c'est sorti, c'est le cut de Tony Scott.
J'ai pas le souvenir, mais je savais.
Gros bide.
Comment?
Ah, gros bide.
Gros bide aussi.
Ah ouais, ouais, moi je l'ai vu 4 fois en salle à l'époque, ouais. parce que je suis comme Julien, en fait, j'ai eu un énorme attachement personnel au film, quoi. Et à chaque fois, il y avait 12 personnes dans la salle.
On peut rejoindre ton livre des films qu'on voit dans des salles vides.
Avec toi. Voilà, c'est ça.
Moi aussi, hein, je l'ai vu dans une salle complète.
Ah ouais, ouais, c'était voilà. Mais, comment dire, mais c'est un film qui, d'ailleurs.
C'était un film assez, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'était quand même vraiment atypique, quoi. Je veux dire, c'était, et Patricia Arquette, qui est pareil, en fait, pour moi, enfin, de mon expérience, en fait, a vraiment explosé au moment de Lost Highway. Mais moi, c'était là, quoi. Enfin, c'était là où elle était géniale, où cette nana qui a un physique quand même très plantureux, avec une voix en même temps complètement d'enfant, qui a des traits extrêmement harmonieux, mais en même temps, il y a quelque chose de dissonant dans son visage, notamment avec cette dentition tout à fait particulière, qui la rend encore plus belle, je trouve. Il y avait un truc chez elle qui était génial, quoi. Parce qu'on est parti sur Drew Barrymore assez rapidement, mais je trouve qu'on perd pas du tout au change, quoi. Elle est fabuleuse, quoi.
Drew Barrymore qui a essayé de faire son Alabama dans des films
complètement pourris après.
Tout pourri après.
Moi, le seul truc, c'est Christian Slater. Je sais pas ce que vous en pensez, qui est super, hein, mais il est un peu trop bien. Il a été question, je crois, c'était Steve Buscemi, je crois, à un moment, qui avait été...
Il a été question de Robert Downey Jr. au départ.
Aussi,
qui était dans sa première phase, de la première phase de sa carrière. Hein,
moi, j'adore Slater, il y avait Evers, il y avait... qui était avant, non c'était ça, et il y avait... Enfin bon, il avait déjà joué ce genre de personnage un petit peu à la marge et tout. Il était crédible, mais toujours un peu trop bien, quoi. Tu sais très bien qu'il est un peu trop cool, en fait, pour ça. Et je trouve qu'il est un peu trop, il est super, hein, dans le film quand même, mais j'aurais bien aimé avoir un personnage un peu plus,
en fait,
un
c'est
peu
là
plus
où,
pété, quoi.
Je pense que c'est là où tu te retrouves aussi avec, j'ai pas envie de dire les limites de Tony Scott, mais en fait, en tout cas, la volonté de Tony Scott. C'est-à-dire que, en gros, Slater, il voulait le jouer comme un personnage pété. Et dès qu'il a vu Tarantino, il a dit, OK, mais en fait, c'est lui. Et en fait, Tarantino, faut quand même être honnête, il est peut-être cool parce qu'il fait des films cool, mais en fait, il est tout sauf cool, enfin, physiquement et tout ce que tu veux, quoi. Enfin, il a quand même tout de suite, nous on le reconnaissait parce que c'était un gros nerd, quoi. Et en fait c'est comme ça que Slater voulait vraiment le jouer, et en gros Tony Scott lui a dit non, ils ont trouvé un compromis entre les deux, c'est-à-dire le côté
faut l'accepter comme
ton charisme.
Une version idéalisée, c'est-à-dire voilà. Si ça se trouve en réalité ce personnage est vraiment moche. Alabama est amoureuse d'un mec complètement moche, mais lui il se voit comme le héros de sa propre histoire, quoi.
Ouais. Non mais voilà, donc je pense que c'est là où, en fait, où tu te retrouves en fait dans un film de l'entre-deux aussi, c'est-à-dire que en gros ce film-là il serait fait aujourd'hui peut-être par quelqu'un d'autre que Tony Scott, il serait fait complètement différemment aussi, il serait beaucoup plus cru, beaucoup plus voilà. Là il y a une version totalement cinéma en fait de ce que c'est censé le scénar de Tarantino, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que donc ouais, le film s'est planté, mais très vite il est devenu très connu en vidéo, et à tel point que même en France, en fait, Adidas a cherché à le ressortir l'été d'après la sortie vidéo, je crois en 95 ou un truc comme ça, et c'est replanté. Il a rechangé d'affiche, parce qu'il faut quand même aussi dire que l'affiche française a été particulièrement moche. Je sais pas qui l'avait dessinée, mais elle est vraiment pas belle. Et puis ils avaient changé, ils avaient mis ce visuel où ils s'embrassent enlacés, en fait, allongé au sol, qui est un peu plus parlant dans la titraille, en fait, du titre, quoi, de True Romance, dans la police. Mais même là, ça s'est planté, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un film qui est très connu. Mais
c'était des films pour geeks, quoi. Vraiment, enfin, moi, je le vois comme ça, hein, à l'époque, et c'est l'époque bénie où les films, justement, bénéficiaient de cette seconde chance en vidéo, ce qui était salutaire pour plein de films, pour les films de Paul Verhoeven, pour plein de trucs, quoi.
Sauf que par la suite, fin des années 90, début des années 2000, et justement toutes les ressorties DVD qui se vendaient comme des petits pains, je pense que c'est pas vraiment le public geek, mais plutôt un public qui est très sensible à la qualité fleur bleue. Il faut pas oublier aussi qu'il y en a pas
ça ouvre après, c'est ce que je veux dire, quoi.
Il y en a pas tellement des films, en fait, fleur bleue qui soient pas ridicules, quoi. Et True Romance parvient à cet équilibre très délicat entre le hard-boiled réel et un vrai esprit de
contraste.
De vraie romance, quoi.
Donc. Mais c'est ça qui est génial, moi, pour moi, dans le film, et qui vient encore une fois de cette collision entre ces deux auteurs, quoi. Le contraste, tout est là-dedans, en fait, vous verrez. Et je pense encore une fois que cette musique sur le ce dialogue et tout, ça fonctionne de ça, ça participe de ça, et tout est comme ça, en fait, je trouve. Enfin, en tout cas, une grosse partie de True Romance fonctionne là-dessus.
Je crois que c'est à peu près la seule fois où on sera tous d'accord sur un film de Tony Scott écrit par Tarantino. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on va pas tenter la chance, quoi. Donc, merci à vous, messieurs. Merci au public. Merci à vous qui nous écoutez chez vous. Et puis, nous, on lance le film et on se dit à une prochaine pour un autre film pour Stéroïdes. Voilà. Merci.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.